Et bonjour à tout le monde, vous êtes bien sur FM+, vous êtes sur le 91 sur Montpellier, Alliance Plus à Montpellier 103.1, et c'est le moment d'écouter Chacona, votre émission des musiques classiques et d'opéra. Alors aujourd'hui, une musique toute particulière, une émission toute particulière, puisque nous allons recevoir une metteur en scène, Marie-Ève Signorol. En effet, elle est en train de monter du côté de Montpellier une pièce, avec un certain nombre d'enfants qui va s'appeler 14+18. Alors cette composition, cette œuvre est animée évidemment avec des textes et qu'elle a composé avec Simon Attab. Et puis nous en écouterons donc à côté, c'est pour des enfants, et nous écouterons à côté bien des musiques. Alors le 14+18, il faut savoir que la guerre de 14, évidemment 14-18, a été très importante pour l'Europe et a été très importante aussi du côté de l'art, puisque d'un côté, eh bien, on avait un certain nombre d'écrivains qui sont partis à la guerre. Et puis de l'autre côté, on a aussi des musiciens. Et ces musiciens, donc, dans ce bruit de la guerre, ils ont composé. Alors on peut en parler d'un certain nombre qui sont moins connus, Maurice Maréchal, Paul Colaert, Lucien Durosoir, Ernest Farrar. On peut aller chercher des compositeurs un peu anglais, Frank Bridge, ou alors on peut aller chercher Albert Roussel. Voilà. Mais il y en a d'autres, il y en a un certain nombre d'autres, comme Ravel, comme Debussy, comme un certain nombre d'autres de grands monsieur qui étaient tout à fait énervés contre cette musique-là, contre cette guerre-là, et qui ont fait de la musique en rapport. Alors donc, dans l'œuvre dont on va détailler avec Marie-Ève Signorol, il faut savoir que ça a été déjà donné à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Reims et à l'Opéra de Lorraine l'année dernière. Et cette année, ça va être donné, c'est préparé avec des enfants. Elle nous expliquera tout ça. Donc, on va écouter Marie-Ève Signorol et on va écouter un peu de musique. Alors là, on va écouter comme premier type de musique. Alors, je sais que là-dedans, ils ont du Ravel, mais c'est peut-être pas celui-là. Donc, nous allons écouter une œuvre de Ravel, une des premières œuvres de la maturité, qui a été donné justement en janvier 1915 à Paris. Il s'agit du trio avec piano. C'est une œuvre qui a été entièrement composée à Saint-Jean-de-Luz en 14. Et puis, petit à petit, elle ressemble beaucoup à une œuvre de Saint-Saëns qui est un trio opus 18. Et cette œuvre, donc, je disais, a été créée à Paris en 1915 par Maurice Ravel. Et effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ravel, eh bien, un peu plus tard, il s'est fortement engagé dans la guerre. Il voulait la faire, mais en raison de sa santé fragile, eh bien, il a été démobilisé en 1917. Donc, en fait, il n'est pas resté très longtemps. Alors là, je vous propose d'écouter, avant d'écouter Marie-Ève Signorol, d'écouter ce trio. Alors, ce trio, on va écouter, donc, il est en quatre mouvements, modéré, Pantum, Passacaille et finale. Nous allons écouter eh bien, une œuvre, justement, un mouvement qui ressemble au titre de notre émission. Alors, ce n'est pas Chaconne, mais c'est une Passacaille. C'est un peu la même idée. Donc, la Passacaille, c'est justement des œuvres, des formes d'œuvres ou des mouvements symphoniques ou pour orchestre, petit orchestre, qui ont été créés donc, dans l'époque baroque. Et justement, à cette époque-là, donc, pendant la guerre, eh bien, on a essayé de s'asseoir sur la musique, d'utiliser la musique ancienne ou les formes de musique ancienne. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette Passacaille. Donc écoutez le troisième mouvement du trio pour piano, violon et violoncelle de Monsieur Maurice Ravel. C'est la Passacaille, donc nous allons l'écouter par Georges Pludermacher au piano, Gérard Jarry au violon et Michel Tournus au violoncelle. Alors Marie-Ève Signerolles, qu'est-ce que c'est que ce 14 plus 18? Un peu de mots.
Alors 14 plus 18, c'est une création qui a pris forme l'année passée. C'est une coproduction entre l'Opéra de Paris, l'Opéra de Nancy, l'Opéra national de Lorraine, donc l'Opéra de Reims et l'Opéra national de Montpellier. L'année passée, ça réunissait 100 jeunes de Reims, de Nancy et de Paris. Et cette année, ce projet est repris avec d'autres jeunes à l'Opéra national de Montpellier. C'est un projet qui a été commandé par l'Opéra de Paris, que j'ai appelé 14 plus 18, que j'ai coécrit avec Simon Attab, et qui porte cette équation un peu étrange 14 plus 18 en hommage à la guerre de 14-18. C'est une création, une pièce théâtre et musique qui retrace la guerre de 14 à travers le regard d'enfant. L'idée générale, c'est de confronter des enfants de 1914 à des enfants de 2014 et d'engager une rencontre, une discussion entre la génération de leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents et la génération d'aujourd'hui. Voilà. Donc le spectacle commence par un questionnement. Des élèves de 2014 posent à leur professeur la question de qu'est-ce qu'est 14-18, et on a des élèves de 1914 qui sont en présence d'eux et qui répondent à cette question. Du coup, le professeur un peu étrange, qui est à la fois professeur d'histoire pour nos élèves de 2014 et le professeur de français de 1914, et fait sa dernière leçon de français aux élèves de 1914. Et nous voilà partis dans une épopée où de jeunes enfants racontent quelque part à leurs parents ce qu'est 14-18 pour eux, à travers des dialogues, à travers au départ un amusement, un jeu qui finalement tourne mal et tourne au jeu de la guerre. Voilà. Donc c'est un peu l'idée était de passer la guerre de 14-18 par le filtre du regard des enfants. Donc quand je me suis mise à écrire, je me suis mise un peu dans la tête d'un enfant qui voudrait savoir et raconter à des adultes ce qu'est la guerre. Mais c'est plutôt un spectacle pour adultes, au final, fait
D'accord.
par des enfants.
D'accord. Mais vous savez bien metteur en scène, mais écrire, c'est votre truc aussi?
Bah, là-bas, j'ai commencé par l'écriture, assez jeune, sur le coup des 16 ans, 17 ans. Voilà, j'écrivais mes premières comédies musicales pour jeunes publics à cet âge-là. Et c'est un plaisir que j'ai continué à avoir plutôt en cinéma, voilà, en tant que réalisatrice, j'écrivais mes propres films, et c'est un plaisir que j'espère avoir de nouveau à l'opéra par le biais d'opéra contemporain et là par le biais de 14 plus 18.
Voilà. Alors le texte que vous écrivez, il est en rapport avec la musique que vous allez mettre, ou c'est peut-être pas vous qui l'avez choisi exactement, tout à fait la musique. Comment faites-vous ?
L'idée, c'est qu'on est déjà parti d'une histoire qui a été passée par le filtre de l'écriture, et qu'ensuite on a choisi les musiques d'époque, de compositeurs qui ont marqué cette période-là, comme d'auteurs qui ont marqué cette période-là, d'écrivains de cette période-là, qui sont comme des acteurs qui tirent les fils de cette histoire tout au long de l'histoire, et ces fils sont à la fois des films musicaux, des films de la littérature, des films du cinéma d'époque. Donc on tire un peu les différents fils artistiques qui ont cousu cette époque-là et qui nous permettent d'avoir un corpus musical qui à la fois raconte cette époque-là et qui aussi était écrit à cette époque-là.
Et alors là, bon, on a vu la répétition où il y avait comme piano, après il y a un orchestre, il y a quelque chose d'autre, comment c'est organisé?
En fait, les musiques ont été arrangées par Benoît Menute, qui a arrangé en fait toutes les musiques qui étaient écrites à la base pour des formations d'orchestre soit plus grandes, soit parfois il a arrangé les choses pour que ça soit simplement une clarinette et un piano, une clarinette, un piano et un violoncelle. Et là, je crois qu'on a à peu près avec nous 7 à 8 musiciens qui forment un orchestre et qui nous accompagneront pendant les répétitions finales en mai et pendant les spectacles.
D'accord. Ouais. Alors, on a entendu du Satie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme musique ?
Ah, on a du Stravinsky, on a même du Chaplin,
oui.
On a du,
écrivez ces musiques de films, oui.
Voilà, on a du, je sais plus si on a du Kurt Weill, on a du, je sais plus, on a plein de choses.
C'est pas grave. Donc des musiques typiquement d'époque qui ont été pas forcément inspirées par la guerre, mais qui étaient autour de la guerre, qui ont été composées pendant la guerre.
C'est plus des musiques qui étaient composées pendant la guerre. et certaines musiques comme les berceaux de forêt qui rappellent la guerre. Ensuite, on a adapté les musiques, c'est-à-dire que c'est pas forcément, les musiques ne sont pas forcément jouées en entier. On a pris des parties et on les a adaptées aussi pour des voix d'enfants. Voilà, c'est un peu le travail qui a été
D'accord.
fait.
D'accord. Alors là, il y a, je crois, trois écoles qui sont ici. Mm-hmm. Alors comment avez-vous choisi les écoles ? Vous les avez un peu imposées ou et les classes ?
Non, le travail qui a été fait par le service éducatif de l'Opéra, c'était au départ de concerner les établissements, de leur parler du projet, de leur demander s'ils avaient envie de déposer un dossier pour juste voir leur motivation, parce que c'est un projet qui est lourd pour les professeurs, c'est-à-dire qu'ils accompagnent tout au long de l'année leurs élèves dans les répétitions, dans les préparations. Il y a un travail qui est fait aussi en cours. Donc c'est important pour les profs dans le sens où ils peuvent avoir une matière à travailler pendant tout le long de l'année, une matière dans la littérature, en histoire, en musique, même en sport. Voilà. Et ce sont sur dossier, ils ont été sélectionnés, soit par rapport à leur investissement qu'ils avaient déjà mis dans des projets éducatifs, soit par un engouement, voilà, par rapport à ce projet-là. Et donc, ces trois écoles ont été choisies pour.
Et les professeurs, sont des professeurs de quoi ? De littérature, de musique ?
Non, forcément. Pour les CM2, c'est forcément des institutrices ou des instituteurs. Donc là, on a deux institutrices et on a deux CM2 et on a une cinquième où les professeurs se relaient en fonction des créneaux horaires et des activités.
Voilà. Et quel travail avez-vous eu avec ces professeurs en amont ?
On n'a pas eu un travail en amont avec les professeurs. On a eu des réunions qui leur permettent de savoir quel est le projet. Ils ont des réunions avec le service éducatif de l'Opéra qui leur permet de donner des clés qui ont déjà été expérimentées l'année passée avec les professeurs. Donc les enfants vont travailler en cours sur l'écriture sur à la manière d'eux, c'est-à-dire à la manière des poilus, écrire des lettres à la manière des poilus. Donc ça fait travailler une certaine forme d'écriture, écrire à la manière d'Apollinaire. Ils ont des pistes de travail en histoire. Donc du coup, ça permet aux élèves d'être préparés quand ils arrivent en répétition, d'avoir déblayé un peu les mots, le vocabulaire, les situations, savoir à quoi ça se rapporte, qui était Apollinaire, qui était Blessandra, qui était voilà. Donc c'est tout un travail qui normalement, alors je suis pas en cours pour vérifier, mais a priori de ce que je comprends, les élèves ont l'air bien renseignés. Donc quand ils arrivent, ça veut dire que les professeurs ont fait ce travail-là avec eux.
Voilà. D'accord. Et on les a entendus chanter aussi.
Oui. Alors ils chantent, alors c'est très marrant parce que là, pour la plupart ils n'ont jamais fait de théâtre, jamais fait de chant, jamais fait de danse, c'est la première fois qu'ils touchent à ces disciplines. Pour certains, par exemple, pour certains garçons, la danse est une chose impossible, et puis ils se retrouvent là à tout d'un coup prendre du plaisir à danser, à avoir presque envie de prendre des cours, sauf que la danse est faite pour les filles, et que ça leur ouvre quelque part des possibles. En chant c'est pareil, certains découvrent leur voix, ça leur permet de pouvoir prendre la parole de façon plus affirmée en public, ça leur permet de découvrir aussi qui ils sont, parce que quand on découvre sa voix, c'est quand même une sacrée découverte. Ça leur permet de savoir prendre, oui, la parole en public, de savoir se placer, d'effacer une forme de timidité, d'apprendre une forme de vocabulaire, d'avoir des mots dans leur bouche qu'ils n'ont jamais eu. Donc je pense que c'est un gros bagage pour la vie.
Thank you.
Voilà, vous venez donc d'écouter en première partie ce Ravel, cette sonate pour violon, piano et violoncelle, ce trio. Donc Georges Puydamacher piano, Gérard Jarry violon, Michel Tournus violoncelle. C'est un enregistrement qui a été réalisé pour Émail en 1974. Et ensuite, vous avez écouté une œuvre de Poulenc qui s'appelle Les mouvements perpétuels. Il y a trois mouvements perpétuels. C'est une des premières œuvres connue de Francis Poulenc, qui a été créée en 1919, qui a été écrite en 1918, et c'est juste quelques semaines avant que monsieur Francis Poulenc parte à la guerre. Donc ces trois morceaux de piano, ces trois mouvements perpétuels, c'était assez modéré, très modéré et alerte. Ces trois mouvements perpétuels étaient joués par Gabriel Taquino, et c'est un enregistrement, je vais essayer de trouver la date, voilà, qui a été fait en 1968 pour la firme Émail classique, comme l'autre de Ravel. Alors là, nous allons reprendre Marie-Ève Signerolle, qui va continuer à nous raconter des tas de choses sur cette œuvre qui s'appelle ce spectacle musical 14+18.
Alors, est-ce que ce travail que vous faites ici, c'est vraiment la copie conforme de celui que vous avez fait à Paris, ou je ne sais plus, à Reims, vous avez dit? Donc, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a des grosses variétés? Et vous, est-ce que vous avez modifié des choses par rapport à votre texte, ou des choses comme ça?
Ce qu'on a fait à Paris, c'est... Enfin, Paris avec les enfants de Reims, de Nancy et de Paris, c'était l'aventure de Paris. Après, c'est un beau puzzle qui nous permet aujourd'hui de travailler en sachant ce qui marche et ce qui marche pas. Ça nous permet de gagner du temps et peut-être, j'espère, d'aller plus loin dans certaines scènes avec eux. Après, on avait 4 classes, là on en a 3, donc ça veut dire que toutes les distributions sont à refaire, à redistribuer, à réinventer. Ce qu'on apprend au théâtre, entrer, sortir de scène, est-ce qu'on est 3 par scène, est-ce qu'on est 10, est-ce qu'on est 20? Ça dépend aussi de la motivation des élèves, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire ce qu'on fait. Donc c'est à eux, au fur et à mesure, de choisir si on vit ou pas de faire partie de la scène. On les pousse un peu à y aller, parce que ce n'est pas forcément évident. Et donc forcément, ce sera fait avec leur personnalité, avec qui ils sont. Mais on sait, au moins, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc c'est une sacrée force.
Alors vous, on sait que vous l'avez déjà fait. Vous avez dit que vous avez déjà écrit des choses pour les enfants. Mais quels sont vos antécédents par rapport à ce travail avec les enfants, finalement?
Alors j'ai déjà travaillé avec des enfants maintenant il y a très longtemps, j'avais une vingtaine d'années dans des projets musicaux.
Il n'y a pas si longtemps, ça doit être ça.
on s'en est pas rendu compte. Donc du coup, oui, j'ai travaillé avec des enfants qui étaient issus de conservatoires musicaux pendant longtemps, donc en théâtre principalement. J'ai travaillé ici sur le projet de la Petite Renarde Rusée avec les jeunes d'Opéra Junior, qui était un projet différent parce que c'est des enfants qui ont déjà touché au théâtre et surtout à la musique. Donc on peut certainement aller plus loin. On a une autre motivation parce que c'est des enfants qui sont volontaires. J'ai travaillé l'année passée avec les 100 sur ce projet-là pendant un an. Mais ce qui est intéressant avec des enfants qui n'ont jamais touché à ces activités-là, c'est leur marge de progression. Elle est énorme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience de ce à quoi ils approchent. Et même si plus tard, ils ne font ni chant, ni danse, ni théâtre, au moins, ils auront appris à être mieux dans leur corps, à être mieux dans leur voix, à être mieux avec les autres, mieux avec eux-mêmes. Donc, quoi qu'il arrive, le travail, même si c'est jamais parfait, et ça n'a pas à être parfait d'ailleurs, c'est formidable à quel point on les voit se développer. Voilà. Ouais.
Et la façon aussi de leur expliquer les choses, on peut imaginer que par rapport à des pros, il y a une certaine façon de parler, d'être court, d'être succinct ou pas, mais là on voit les enfants, il faut des fois répéter, il faut le dire d'une autre façon, il faut peut-être un peu monter la voix pour un moment.
Alors, j'ai plus de plaisir parfois à travailler avec les enfants, parce que même s'ils sont bruyants, ils ont envie. Alors qu'au bout d'un certain temps, avec certains adultes, ils sont bruyants, mais ils n'ont pas envie.
À ce point-là?
Oui, parfois.
Même quand on parle de professionnels d'une compagnie?
Oui, parfois les gens sont blasés par les choses, sont blasés même par nos métiers, et l'énergie des enfants, l'envie de faire, de se découvrir, c'est un potentiel énorme. Après, l'énergie que l'on passe, on travaille de deux façons. On travaille individuellement avec les classes et on travaille en groupe. Donc ça, vous avez assisté à une journée où ils sont 100, tous ensemble. Donc forcément, comme n'importe quel individu, patienter, attendre, prendre l'énergie, se taire prend beaucoup d'énergie, être immobile prend beaucoup d'énergie. Ils apprennent tout ça. Ils apprennent la concentration, ils apprennent la patience, ils apprennent à écouter les autres, ils apprennent ce que c'est qu'une prise de parole. Et moi, ma manière à moi, c'est de ne pas trop faire de psychologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parle, ils m'écoutent. Quand ils parlent, je les écoute. Et la règle est très simple. C'est tu me respectes, je te respecte. Et je pense que ce qu'ils apprennent vraiment ici, c'est à se respecter. Donc après, les journées sont fatigantes, les journées sont éprouvantes pour eux, pour nous. Parce qu'on est dans des salles, on a les meilleures conditions à l'opéra. Ils découvrent un lieu d'opéra, donc ils ont ce respect-là pour l'établissement. C'est aussi une chose importante. Mais ils sont comme n'importe quel individu, ils ont besoin de respirer. Et du coup, on apprend ce que c'est aussi que la discipline. Et étrangement, ce que j'ai appris l'année dernière, c'est que les enfants ont besoin de discipline. C'est-à-dire que les plus turbulents, les plus perturbés, tout d'un coup, c'est important pour eux. La minute de silence est importante. D'ailleurs, tout à l'heure, la minute de silence fait en hommage à Charlie Hebdo a été respectée par les 100 enfants. Voilà. Et ils ont appris ce qu'était une minute de silence. Voilà.
Oui, d'accord. Et est-ce qu'après, vous, ça vous permet d'en tirer des choses pour les pros, quand vous croisez les pros? Et puis, est-ce que ça a apporté quelque chose?
C'est un travail complètement différent. Je pense que ce qu'on trouve dans l'amateurisme, c'est une envie, un désir de faire qui est énorme. On trouve pas forcément les règles de base et l'apprentissage et le savoir qu'ont les professionnels. Avec les professionnels, il faut retrouver cette espèce de simplicité, de naïveté, d'évidence, je sais pas, qu'ont les enfants ou qu'ont les amateurs. Voilà, c'est un travail complètement différent. Oui, on apprend des uns avec les autres, mais beaucoup de metteurs en scène ne travaillent qu'avec des amateurs aujourd'hui et arrivent à des spectacles entièrement professionnels. Je pense que 14+18 l'année passée était un spectacle très professionnel. Voilà.
Mais vous faites pas beaucoup d'amateurs, c'est plutôt des pros en général. Je parle pas forcément d'opéra, mais bon.
Oui, mais parce que je pense qu'on a moins les parce que à l'opéra, on bosse avec des professionnels. Le chant ne peut pas ne pas être professionnel. C'est-à-dire quand on bosse avec des chanteurs, il y a un certain, c'est pas élitisme. Il y a une attente du public, il y a une attente. C'est une profession, être chanteur est une profession, donc on se doit d'être professionnel, donc je travaille avec des professionnels. Mais je pense que l'opéra pourrait se travailler avec des. En tout cas dans la figuration, dans le mime, et pourquoi pas une certaine forme de chant, être réinventée avec des gens qui ne sont pas professionnels. Il y a plein de troupes d'amateurs qui font du chant et les gens trouvent du bonheur à ça et de l'épanouissement. Mais en théâtre, on peut parfois peut-être plus travailler avec des amateurs. Oui.
D'accord. Alors on sait une grosse passion, c'est le cinéma. Mm-hmm. Alors, est-ce que là, on peut faire des analogies avec le cinéma, la façon de coacher les gamins ou pas, quelque chose comme ça?
Je pense que, en général, dans mon travail de metteur en scène à l'opéra ou au théâtre, je travaille beaucoup comme au cinéma. C'est-à-dire que même si j'ai pas la caméra pour faire des gros plans, des travelling, des plans larges, des plans serrés pour indiquer au public l'endroit où il doit regarder, le travail qu'on fait en tant que metteur en scène de théâtre, c'est justement de créer des mouvements, par la lumière, par les corps qui nous indiquent les directions de regard, etc. Et moi, mon travail à l'opéra, qui est souvent différent de certains autres metteurs en scène qui préfèrent, par exemple, quand un personnage chante, il faut que tout soit dirigé vers le chant. Pour moi, quand un personnage chante, il est plus mis en valeur, quand un personnage secondaire le regard et quand ce personnage secondaire dit à un troisième quelque chose, etc. Donc j'ai plus l'habitude de travailler sur premier, deuxième, troisième plan, même hors champ, qui au départ peut perturber le regard, peut se dire tiens, elle ne respecte pas le champ, et au final ça donne une autre vision et une autre importance à celui qui chante. Voilà, c'est ma
Mais dans le Tchaïkovski, c'était exactement ça.
C'était exactement ça, voilà. Oui. Donc certaines personnes, au départ, on est un peu déstabilisé, faire, voilà, et si on n'a pas envie de tout maîtriser, parce que le spectateur, et principalement le spectateur d'opéra, a envie de tout maîtriser. C'est-à-dire qu'il connaît la musique, il connaît l'histoire, il connaît exactement chaque note, il ne se laisse plus surprendre par rien du tout. L'idée un peu de mes mises en scène, c'est pas de réinventer la mise en scène, en général je suis très proche du livret, mais c'est de lui donner un autre regard, le mien, très subjectif, mais je pense que quand on fait de la mise en scène, il faut être subjectif et surtout pas objectif.
Qu'est-ce que ça veut dire être objectif en plus,
c'est stupide, je pense que même un journaliste est subjectif et on ne doit en aucun cas croire qu'il est objectif, mais sinon on fait erreur. Mon idée de la mise en scène, c'est de revisiter des musiques que je respecte et qui m'emmènent quelque part et d'emmener le spectateur quelque part et surtout que ce spectateur-là se laisse faire et qu'il s'abandonne à découvrir quelque chose en oubliant tout ce qu'il maîtrise et tout ce qu'il connaît déjà.
Mais moi, ça me fait un peu penser au choc qu'on a quand on découvrait, je suis un vieux monsieur, donc effectivement, des ballets de Béjart, des ballets avec, je veux dire, pas un duo, quand il y avait tous les danseurs, c'était exactement ça. Partout, il y avait quelque chose à regarder. Bon, il y avait peut-être un duo à un endroit, mais les autres, ils rentraient, ils sortaient, ils tournaient. Et ça, je trouve que c'est vraiment le mot à la mode.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie, on ne maîtrise pas grand-chose.
Ouais.
On ne maîtrise même pas son propre espace et parfois son propre corps, et on est surpris à regarder une chose, on est capable d'en entendre une autre. Après, l'individu dans le monde moderne a beaucoup moins de capacité aujourd'hui à entendre des sons différents au même moment, à voir des choses différentes au même moment. Si on met quelqu'un qui vit dans la forêt, qui a toujours vécu dans la forêt, il est capable d'entendre 100 sons à la minute différents en même temps. Nous sommes capables d'entendre à peu près 10 choses différentes en même temps, et plus le temps va passer, plus les choses vont se réduire. Et moi, mon idée, c'est quand on est au théâtre, qu'on soit capable de regarder à cour ou à jardin, que toujours nos yeux, quand ils se posent quelque part, qu'ils soient capables de voir et d'entendre ce quelque part. Et ce n'est pas à moi de décider ce que doit regarder le spectateur. Par contre, c'est à moi de penser, de réfléchir et de proposer des choses qui font que, où que se pose le regard, quelque chose raconte l'histoire. Voilà, c'est mon idée de la mise en scène.
D'accord. Alors, est-ce que c'est toujours profondément intellectualisé ou ça tombe comme ça? Des fois.
Malheureusement trop pensé, trop réfléchi, maîtrisé. Je pense que parfois on a l'impression d'un désordre, mais c'est un désordre organisé. C'est-à-dire que chaque chose, chaque soir est au même endroit, au même moment. Après, ça reste du spectacle vivant et tous les soirs c'est différent, bien heureusement. Les choses sont... Chacun travaille différemment. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent sur l'improvisation. À l'opéra, on n'a pas vraiment le temps de travailler sur l'improvisation.
Mais il y a la musique qui, de toute façon...
La musique est déjà là. Les chanteurs arrivent, connaissent le voilà. Donc, si le metteur en scène se met à improviser, quelque part, c'est manquer de respect au travail qu'on fait les autres. Donc, j'arrive, je suis préparée. Après, parfois, je suis surprise. Parfois, les choses ne marchent pas et on doit réinventer. Ça, c'est intéressant parce que plus on maîtrise son sujet, plus on peut improviser quelque part et plus on peut réinventer. Si on ne maîtrise pas son sujet, quand on arrive, on se laisse déborder par les choses. Voilà. Et je pense que de toute façon, la plupart des metteurs en scène avec qui je travaillais en tant qu'assistante étaient eux-mêmes très préparés.
Voilà. D'accord. Alors après ce 14 plus 18, qu'est-ce qui se passe?
Alors après le 14 plus 18...
On se reverra pour la suite.
Là, pour l'instant, je prépare le Monstre du Labyrinthe. C'est une création de Jonathan Dove qui a lieu au Festival d'Aix-en-Provence cette année.
Oui.
C'est dirigé par Sir Simon Rattle. C'est avec 300 choristes amateurs sur la grande scène du GTP au début juillet, autour du 8 et 9 juillet. Donc c'est une création contemporaine avec des adolescents aussi de l'Opéra Junior qui chanteront dans la production, donc c'est chouette, je vais les retrouver. Ça leur donnera aussi la possibilité.
Et l'orchestre, c'est quoi?
L'orchestre, c'est du London Symphony Orchestra qui viendront.
C'est pas rien. Hein.
Non, c'est pas rien. Voilà, donc c'est une grosse production. Il n'y a pas énormément de temps de répétition.
Vous avez déjà croisé ça?
Non, pas encore. Non, mais le travail au début se fait séparément et puis ensuite on travaillera ensemble. Mais oui, c'est un sacré monsieur.
Ah ouais, oui, ouais, hein. Ouais, ouais. Et puis donc après.
Et après, bah après il y a la préparation de des autres projets. Donc j'aurai une reprise d'Onéguine à Limoges.
Ah, c'est bien ça. On en avait parlé, me semble.
Ouais, voilà, ouais. J'ai un Puccini, le triptyque que je commencerai ici avec Il Tabarro et.
Voilà, on en avait parlé qu'il y avait quelque chose qui devait se
faire.
En doublon
avec Royal Palace. Voilà, c'est en juin 16. Ensuite j'ai une Carmen à Bordeaux. Voilà.
Donc, là, le triptyque, c'est particulier, là.
Le triptyque, voilà, c'est particulier, et puis c'est une production qui va se monter. Donc, comme l'indique, triptyque 3, c'est trois volets, ce sont trois volets, Il Tabarro, Janis Kiki et Sœur Angelica, de Puccini. L'idée de Valérie Chevalier, c'est de le faire sur 3 ans, parce que ce sont des productions aussi qui coûtent cher, et de le faire à chaque fois en doublon avec un autre opéra. Donc, la première année, ce sera Il Tabarro en doublon avec Royal Palace, parce qu'il y a musicalement des rapprochements. Et donc voilà, la première année, ce sera en 2016, Il Tabarro avec Royal Palace, et puis l'année suivante, la suite. Voilà.
D'accord. Bon, mais de quoi s'occuper.
Exactement.
Et il y a un film qui était plus ou moins prévu, non ? Il n'y a rien de...
Oui, non, bah alors le problème, c'est que...
C'était les sous qui manquaient, si je me rappelle bien.
Pardon ?
C'était les sous qui manquaient, je crois.
En fait, c'est les sous et c'est le temps de rencontrer les producteurs pour convaincre les gens, les chaînes. Voilà, l'opéra prend beaucoup de temps entre les propositions, le démarchage, les propositions... les préparations et puis les répétitions, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. J'ai pas l'impression de prendre beaucoup de vacances en fait, même pas. Et voilà, c'est le début de aussi de. Ça fait 2-3 ans, c'est un début de carrière. Et donc
oui,
faut
c'est bien,
être,
depuis 2-3 ans, effectivement.
Ouais,
depuis, on a envie de dire Opéra Junior, hein,
oui,
c'est là où ça
a démarré. Oui, c'est là où ça a démarré. Et puis au fur et à mesure, les directeurs vous font confiance. Et voilà, donc ça se fait au fur et à mesure.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci bien, à bientôt.
Donc vous venez d'écouter Marie-Ève Signorol qui réalise à Montpellier ce spectacle musical 14+18. Sachez que ce spectacle musical est en train d'être monté. J'ai eu la chance de voir une répétition un bout d'après-midi. Donc ça sera donné le samedi 6 juin, nous avons le temps, à l'Opéra Comédie à 17h. Et d'ailleurs nous retrouverons Marie-Ève Signorol plusieurs fois avec des élèves, des jeunes élèves. Je vous rappelle qu'il y a, trois collèges qui en font partie. Il y a le CM2 de l'école Victor Schulcher à Montpellier. Un autre CM2 de l'école de Montferrier-sur-Lèze et une classe de 5e du collège Joffre de Montpellier. Donc nous aurons la chance de les revoir. Alors peut-être pas la prochaine fois dans un mois, mais peut-être un peu après. Voilà. Alors vous avez écouté également un morceau au milieu des interviews de Marie-Ève Signorol, et bien de Eric Satie qui lui a composé un certain nombre d'œuvres pendant la guerre de 14-18. En particulier les Gnossiennes. Alors des Gnossiennes, il en a écrit 6. Nous avons écouté les 3 dernières, L'âme modérée avec conviction et une tristesse rigoureuse. Ce sont des œuvres qui ont été composées entre 1889 et 1891 et qui ont été données à peu près à cette époque-là. Et c'est un grand monsieur que c'est Eric Satie. Évidemment, les enregistrements étaient réalisés ici par Aldo Ciccolini et c'est un extrait de l'intégrale de l'œuvre pour piano d'Eric Satie par Aldo Ciccolini. C'est pour encore émail, hein, émail classique. Et c'est un enregistrement qui a été réalisé entre 1966 et 1971 pour EMI France, évidemment. Et après, c'est devenu émail. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, là, ensuite, nous allons passer à une œuvre qui a été composée exactement pendant la guerre. Il s'agit de l'œuvre qui s'appelle L'histoire du soldat, qui est de M. Igor Stravinsky. Alors, M. Igor Stravinsky, il était parti en Suisse et il a composé cette œuvre. Et puis, quelques temps après, il en a fait une suite pour orchestre. Alors, cette œuvre, normalement, on entend parler, mais là, il en a fait, donc, on va écouter une version qu'il a lui-même enregistrée, qu'il a enregistrée avec des membre de l'orchestre du Columbia, donc ça s'appelle le Columbia Chamber Ensemble. Cet enregistrement a été réalisé aux États-Unis, évidemment, en 1961, et nous allons donc écouter des petits extraits, donc la suite, et nous avons l'introduction, scène 1, scène 2, et puis voilà, donc ceci terminera notre émission. Donc on peut au moins citer les instrumentistes, dont Isabelle Baker, premier violon, Richard Kelly contrebasse, Roy D'Antonio clarinette, Don Cristoli basson, Charles Brandy trompette, Robert Marchler trombone, William Kraft percussion et Igor Stravinsky qui dirige tout ce petit monde. Et ça, c'est un enregistrement qui a été réalisé pour CBS et qui maintenant est édité par la firme Sony. Thank you. Et voilà, c'était donc notre nouvelle émission de Tchakone. Vous avez entendu, on la remercie beaucoup, Marie-Ève Signorol, metteur en scène, donc pour ce spectacle musical 14+18, dont nous aurons l'occasion de reparler dans quelques temps. Vous avez entendu comme musique finale un extrait, des extraits, trois petits extraits du sort du soldat de Stravinsky, un air, une pastorale et la marche royale. Un petit ensemble, le Columbia, dirigé par Igor Stravinsky, dans cet enregistrement qui a été réalisé en 1961. Je remercie Manu à la technique et je vous dis à la semaine prochaine. Et ne quittez surtout pas FM Plus 91 ou Alliance Plus 103.1. Bye bye.